On va en parler dans un instant, on va parler des otages, de la libération des otages, bien sûr. C'est lui-même qui a annoncé la nouvelle hier, le président de la République.
Je viens d'apprendre par le président du Niger, monsieur Issoufou, que nos quatre otages du Sahel viennent d'être libérés.
Allô, ça y est, t'es là, c'est bon, ça ira mieux quand je te verrai.
J'ai entendu sa voix, d'accord, mais je veux le voir en chair et en os.
On va se serrer les bras les uns dans les autres, hein, voilà, les bras, on va s'entourer, je sais pas, ça va être des cris, des larmes, voilà, la joie. Hein.
Et puis, on a la joie des familles, bien sûr, la joie des familles. Que l'on a entendu, on peut se mettre à leur place, effectivement. Ça y est, ils rentrent après, soyons précis, trois ans, un mois et 13 jours de détention aux mains d'Al-Qaïda Maghreb islamique. On peut imaginer leur état d'esprit, on va vivre sûrement d'ici une heure et demie, l'arrivée de ces quatre otages. On pense aux sept qui sont toujours retenus par des ravisseurs aussi, mais la question que tout le monde se pose, c'est maintenant, dans quelles conditions ont-ils été libérés ? On a remercié de manière intense le président du Niger. On se demande, est-ce qu'Areva a fait un petit chèque aussi ? Moi, la question que je vous pose, c'est, doit-on nous dire toute la vérité ? Est-ce indispensable de savoir comment on les a libérés ? Est-ce indispensable que le gouvernement fasse preuve de toute la transparence ? Oui ou non, 3216rmc.fr, parlons-en. Jacques, toi tu es un adepte de la transparence, tu estimes qu'on doit savoir.
Mais de toute façon on doit savoir, puis on doit d'abord, première chose, nous dire la vérité. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui en France, il est écrit noir sur blanc qu'Areva a toujours dit qu'il paierait pour libérer leurs salariés, ce que je comprends d'ailleurs tout à fait.
Mais pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas eu de rançon ?
Alors Areva,
tout de suite on a dit pas de rançon.
Mais c'est du pipeau une fois de plus. Areva, l'État et l'actionnaire majoritaire contrôlent 80% d'Areva. À partir du moment où Areva paye une rançon, eh ben ça veut dire que le contribuable, et objectivement, ça ne me choque pas. À mon avis, la vie d'un homme, la vie d'un citoyen français, on doit tout faire. Ça a duré quand même plus de 3 ans. Quand même, il faut se mettre à la place d'abord otages et à la place de leur famille. Mais je comprends. Mais non, mais ça, Hollande, d'ailleurs, depuis qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, il a toujours dit qu'il ne paierait pas. Alors on nous répète d'ailleurs. D'ailleurs, Laurent Fabius était prudent, il a dit le président de la République a bien précisé quelle était sa politique. Et là, c'est écrit partout. Alors,
parce que si on le dit officiellement, du coup, c'est le marché aux otages qui est ouvert.
Mais c'est le marché quand même. ACNI, c'est pas une association sans but lucratif. Je reconnais que c'est un cercle vicieux, parce que finalement, on paye, et après, ça leur permet de se réarmer et de faire après de nouvelles prises d'otages. Mais c'est la réalité. Tous les gens sérieux avec qui on en parle disent qu'on a payé.
Et donc, on doit accepter cette espèce de mensonge
par omission. C'est pas le montant.
Plusieurs millions d'euros, nous dit-on.
Il voulait 80 millions d'euros. C'est pour ça que les otages, ça fait beaucoup.
C'est pour ça que ça a duré 3 ans.
Lina Dumont, est-ce que tu veux absolument savoir et connaître toutes les conditions ?
Moi, je veux absolument savoir, et j'y crois pas du tout, qu'il n'y a pas eu des échanges monétaires. Mais en même temps, t'imagines avec tout ce qui se passe en France, si il dit la vérité, il dit voilà, on a donné tant de milliards,
de millions.
Nous là en France, t'as vu, c'est le bordel. D'ailleurs, moi moi je suis ravi que ces otages soient libérés, mais quand tu es de la France à laquelle j'appartiens, tu te dis mais ils gèrent mieux les affaires au Mali que chez nous. Enfin moi c'est cette impression que j'ai quoi. Ça me donne cette impression.
En même temps tu comprends qu'on puisse verser ou qu'une société verse quelques millions ou des millions d'euros pour obtenir, ou tu es choqué pour obtenir la libération de nos compatriotes. Ça te choque ?
Ça te gêne
qu'on verse de l'argent pour libérer nos compatriotes.
Et en même temps, c'est quand même choquant de. Mais en même temps, ces mecs-là, c'est pas des rigolos, quoi. Donc c'est pour ça que j'y crois pas qu'il n'y a pas eu d'échange. Ces mecs-là, comme il dit Jacques, ils font pas ça par bénévolat, quoi.
Surtout qu'en plus, on ne sait pas si. On nous dit qu'il n'y a pas eu d'assaut et pas de rançon. Mais si le fond, les preneurs d'otages, ceux qui ont détenu, là, pendant 3 ans, nos compatriotes, ils sont peut-être partis dans le désert, à l'assaut peut-être d'autres
autres.
Mais pourquoi pas, effectivement. Donc on se dit, mince, on paye. On casque et derrière on les laisse libres, quoi, en fait, en toute impunité.
Mais tout à fait.
Mais tu vois, moi je ferais une différence entre les otages, même si on devrait jamais le faire, mais je pense quand même que le mec qui part avec son voilier, où on lui dit par exemple, n'allez pas dans ce secteur-là, c'est hyper dangereux, vous avez le risque d'être enlevé. Bon, le mec il y va quand même pour se plaisir parce qu'il se promène, il veut faire le tour du monde. Celui-ci, j'ai envie de dire que si on paye pour lui, des fois ça peut te dire merde, quoi. On lui dit de pas y aller, il va quand même. Mais quand des mecs sont pris dans le cadre de leur boulot.
Ce qui est le cas pour arriver à Arlit.
Voilà, même si effectivement les mecs ils ont certainement des en conséquence, ça n'empêche qu'ils vont pour leur boulot. Et je dis quelque part que quand on est tous capables
Donc tu fais des distinctions d'otages, toi, quand
Écoute,
même.
effectivement, comme je te dis tout à l'heure, je mets des guillemets parce qu'on ne devrait pas en faire. Mais là, les mecs, ils y vont pour leur travail. Je pense que quand t'es missionné par une entreprise, c'est ton job d'aller là-bas. Si t'y vas pas, ben, tu dégages. Donc, quelque part, ils ont pas spécialement le choix non plus. Mmh. On est tous capables, quand on touche l'interrupteur, de vouloir de la lumière. Pour ça, faut qu'il y ait des mecs qui s'occupent un peu de l'uranium. L'uranium, il est dans ces pays-là, faut aller le chercher. Donc, quelque part, c'est, les mecs, ils sont dans leur cadre de travail. Je pense qu'il est normal que derrière, il y ait des risques. Que l'entreprise, derrière, ben, écoute, s'il y a une rançon à payer, tu vas pas laisser mourir tes salariés dans le fin fond du désert, sous prétexte que tu peux pas sortir d'argent. Alors après, effectivement, là, ben, en l'occurrence, effectivement, nos politiques sont vraiment des faux culs, parce que, comme le rappelait Jacques, Arriva à 80% du capital
est détenu par l'État. On peut peut-être l'accepter, ça, aujourd'hui.
Mais bien sûr qu'on l'accepte. Moi, j'accepte ça, ça me pose aucun problème.
Mais Jacques l'accepte pas.
Mais je l'accepte pas, mais enfin, je dirais d'ailleurs.
Non, mais qu'est-ce que t'acceptes pas qu'on le dise pas?
C'est depuis Hollande, mais enfin, avant.
Bah, ça a toujours été ça,
Jacques. Ça a toujours été ça. On a toujours payé. Il y a qu'à voir.
Mais on l'a jamais dit.
Mais attends.
Ah oui, mais par contre, moi, ça,
depuis le général de Gaulle.
Je suis d'accord avec Jacques, je vais te dire. Quand j'ai dit la semaine dernière que quand on appelle un chat, ah ouais, tous les gens qui sont autour comprennent ce que tu es en train de dire.
Évidemment.
Nos politiques sont toujours en train de prendre des formules détournées pour pas dire, alors là, bon, rançon, alors on va dire compensation, mais surtout pas rançon. Mais non, qu'est-ce qu'ils nous prennent pour des pigeons?
Tous les Français sans doute, et c'est là où le gouvernement il prend les Français pour des cons, quoi. Parce que tous les Français sans doute qu'il y a eu une malversation pour qu'ils soient libérés. Mmh. Enfin, moi, je trouve ça.
Jean-Louis Normandin est avec nous. Attends, Jacques. Jean-Louis Normandin, président d'Otages du Monde. Bonjour, Jean-Louis Normandin. Vous-même, otage au Liban, vous avez été durant près de deux ans, hein, dans les années 80. Jean-Louis Normandin, est-ce que vous avez su vous-même le prix de votre libération, ce que vous avez coûté à l'époque?
Ça me coûte un débat, et ce débat je le trouve fondamental parce que on parlait tout à l'heure d'appeler un chat, et je trouve ça effectivement extrêmement important. Cette histoire, et sachez que quand je suis rentré, moi, du Liban, quand j'ai mis le pied à terre, après nombreux mois, au bout d'une chaîne et le nez sur un journaliste, il m'a tanné pendant quelques jours, il me dit combien ça a coûté ta libération. Moi, je savais pas que Coluche était mort, je savais pas qu'il y avait eu Tchernobyl, enfin voilà. Bon. Quelques temps après, il y a d'autres journalistes qui ont fait leur boulot, 20 ans après, parce que j'avais quand même des informations, puisque je suis resté en amitié, vous le savez très bien, avec Jean-Charles Marchiani, qui était quand même le
négociateur de Pasqua à l'époque, de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur.
Le préfet Marchiani.
Lui me racontait des histoires, mais je lui garde ma tendresse. Mais on a appris que des années plus tard, qu'en fait, rançon, pas du tout, l'argent, la France, pardon, devait de l'argent à l'Iran. Mmh. Et on parlait pas de l'Iran, on parlait de Damas éventuellement, qui était qui est toujours le passage obligatoire entre Téhéran et Beyrouth. Mais on a appris que la France, il y avait un contrat sur l'atome, étrange retour des choses, où la France avait emprunté de l'argent à l'Iran. Et moi, j'ai été libéré. Roger et moi, on a été libéré, peut-être moi, je crois, à la fois contre la libération de Gorgi et contre le remboursement de la.
Donc c'est pas forcément un chèque, en fait, c'est des arrangements.
Voilà, et aujourd'hui, moi, mon combat,
c'est des arrangements, personnellement aussi.
Jean-Louis Morin, allez-y, pardon.
Oui, c'est simplement mon propos, c'est que je ne nie pas qu'il y a des valises. Il y a des valises qui circulent, évidemment, parce que par exemple les intermédiaires avaient besoin d'affréter des hélicoptères, etc., etc. Mais sur le fond, entre la prise d'otage crapuleuse qui consiste à dire je te tiens, je veux tant de dollars, etc., ce qui était le cas du baron Pain dans les années 70, souvenez-vous, et le déni de la prise d'otage politique, parce qu'on est là-dessus aujourd'hui. Eh ben moi, je pense qu'il y a des gens qui en veulent la démocratie. Il y a des gens qui sont des radicaux, des politico-religieux ou des religieux politiques, comme on veut. Et Boko Haram, quand Hollande a dit « moi, je ne mets pas de rançon », le lendemain, le patron de Boko Haram, qui est mort depuis, a dit « mais moi, je ne veux pas d'argent ». Et leur activité principale, quand même, c'est de brûler les églises. Donc, je veux dire qu'il faudrait quand même sortir, même s'il y a, encore une fois, il y a forcément des intermédiaires à payer, etc. Mais le fond du truc, c'est de dénier, de ne pas dire, de ne pas accepter l'idée qu'il y a des otages politiques.
Jean-Louis Normandin, donc est-ce que il vaut mieux rester dans une espèce de non-dit en sachant tout en ne disant pas, quoi, en fait, c'est ça?
Non, moi je suis pour dire les choses et le combat que je mène, que nous menons aujourd'hui.
Oui, mais le dire, ce sera aussi relayé ensuite auprès des preneurs d'otages. Si vous voulez, si on apprend demain qu'on a versé des millions à des intermédiaires, président du Niger, lui aussi, les sociétés françaises vont lui arranger deux, trois petites choses.
Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, ça se fait depuis des années. Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter, ça joue à
Non, mais c'est après de le dire officiellement et ouvertement.
Non, on a toujours l'impression que les gens avec lui, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de téléphone.
Alors, ça vous me comprenez mal, ça, je me suis expliqué, là, je suis par téléphone, c'est toujours compliqué sans débat, mais sachez que moi, je ne crois pas au concept de rançon, encore une fois, parce que les mecs qui sont agités, par exemple, prenons le cas de la Syrie, qui va nous intéresser maintenant, parce qu'il y a beaucoup moins. Donc, la Syrie, ne me dites pas que les Saoudiens ont besoin d'argent. Ça me ferait marrer quand même, parce que c'est quand même les Saoudiens qui y a des avions tous les jours qui atterrissent en Jordanie pour alimenter la guérilla. Ne dites pas que les mecs qui sont pris, nos confrères qui sont pris là-bas, ils sont mis au frais parce qu'on est en objet, on a une espèce de beefsteak qu'on met dans un congélateur qu'on va retirer au moment.
L'Iran qui est lié à la Syrie, l'Iran, ils ont besoin d'argent vu la situation économique en Iran. Donc là-dessus, ça peut quand même les intéresser.
Donc on trouvera toujours des canaux et des arrangements.
Quoi. Mais Téhéran, pareil, ne me dites pas que les gens qui a des, aujourd'hui, il y a des otages pris pour de l'argent, ça peut arriver. En plus, c'est pas noir ou blanc. Il y a évidemment des bandes, ça a toujours existé, même au Liban et au Sahel. Des bandes avec des pick-up et trois kalachnikovs qui vont choper des mecs et les revendre à un groupe dogmatique. Mais le groupe dogmatique, lui, va faire levier. Et ça, c'est important de le dire, encore une fois. Moi, j'ai pas tous les détails des négos, tout ça. Il y a toujours des gens qui savent, c'est formidable, mais après, on apprend que bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la toile de fond et la dimension politique. Et je pense que c'est important, et pour les otages, et pour leurs familles, et pour vous, et pour nous, et pour les médias, de dire qu'il y a des otages politiques. Et ces otages politiques, ils ont droit à la justice aussi.
On est d'accord. Merci Jean-Louis Normandin. Merci président d'Otages du Monde. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Jean-Louis. Merci d'avoir été en direct.
De toute façon, ce ne sont que des otages politiques. Évidemment, il y a de l'argent qui transite là-dedans, mais quelque part, c'est bien un moyen de pression. Je veux dire un truc. ACMI, c'est quoi? C'est pas un trafic d'humains juste pour prendre de l'argent. ACMI, derrière, c'est quand même bien de la politique. Tu m'excuses.
C'est aussi de la politique, mais derrière, si tu veux, ce serait gênant de savoir que, par exemple, pour récupérer les otages, on n'a pas. On a foutu la paix à ACMI sur une certaine zone du Niger, où on a arrangé le wagon du Niger du président du Niger.
Dans certains cas, quand c'est pas de l'argent, on leur donne même du matériel, et après, c'est pour refaire encore des opérations, pour refaire des attentats. Il y a eu des accords, des fois, sur du matériel.
Exactement,
faut pas être hypocrite. De toute façon, on fait tout pour libérer nos otages, on a raison. La vie d'un citoyen français, on doit tout faire pour les libérer, ça c'est clair.
Pierre est avec nous, chef d'entreprise dans le Gard. Bonjour Pierre.
Bonjour les grandes gueules, merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie, comment vous réagissez? Est-ce que vous avez envie de connaître toute la vérité, toute la transparence dans cette affaire?
Alors pas forcément, mais surtout je voudrais vite te faire un petit rappel. Souvenez-vous Alain Juppé qui disait en souriant, presque à la galéjade, en rigolant, non, la France ne paye pas, avec un petit sourire en coin. C'était totalement irresponsable et je préfère encore la position d'aujourd'hui que celle d'Alain Juppé à l'époque, qui était pourtant, ma foi, pas un mauvais ministre des Affaires étrangères, mais qui mettait là en danger la vie des Français dans ces pays-là. Ce que je pense, qu'il n'y a pas eu de rançon versée, à mon avis. Tout simplement parce que la parole de l'État français, c'est on ne paye plus. Et je crois...
Excusez-moi, mais c'est quand toute l'aide qu'il y a eu une rançon. Arriva n'a cessé de dire qu'ils n'étaient pas à payer, et si ça a pris tant de temps, ça a été sur le montant de la rançon. Et Arriva, c'est l'État qui est actionnaire. Enfin, écoutez, alors quand même... C'est un fait, hein. Lisez aujourd'hui en France, aujourd'hui, c'est écrit partout. Oui.
Puis Pierre, vous savez bien qu'en politique, ils disent beaucoup de choses et c'est pas vrai, quoi.
Oui, mais moi, si vous voulez, j'ai aussi des informations qui viennent
plutôt... Allez-y, donnez-les vos infos, alors. On va confronter info contre info, là, allons-y.
Pardon, laissez-moi vous parler.
Mon cher Pierre.
Des informations que malheureusement je n'ai pas pu vérifier, mais qui me viennent d'amis qui travaillent en Allemagne avec le Spiegel, et il semblerait que, bon, effectivement, les sociétés ont mis la main à la pâte, mais que ça soit surtout l'intervention au Mali qui a été bénéfique dans cette affaire-là, ce qui paraît assez contradictoire, parce que quand on regarde bien au départ, effectivement, tout le monde a eu peur pour la vie de nos otages lorsque l'intervention a été courageusement engagée par la France au Mali.
Il y a eu plusieurs choses, vous avez raison sur le fond, il y a eu l'intervention au Mali qui effectivement...
Ça a même retardé la libération,
peut-être permis de mettre un peu le désordre dans les groupes armés, dans les groupes islamistes, de décimer Laurent, parce qu'on a quand même tué un chef là-bas dans le massif des Ifoas. Mais Jacques a raison, ça a peut-être parasité aussi les canaux de discussion. On sait que Jean-Yves Le Drian s'est rendu deux fois, voire trois fois.
Tu sais ce que ça fait, le Mali, ça a fait qu'on est passé de 80 millions de demandes de rançon, comme on a affaibli avec lui, on est peut-être passé à 10, 15 ou 20 millions. Voilà ce que ça a fait le Mali. Alors c'est très bien.
Pierre, allez-y.
Est-ce que je peux finir?
Allez-y, Pierre.
Juste, donc, il semblerait qu'il y ait une sorte de billard à trois bandes entre les sociétés françaises, le Mali et le Niger. Et donc, si vous voulez, les intérêts qui ont été réglés sur place sont des intérêts régionaux entre le Niger, le Mali, et c'est tout le poids du Mali et du Niger, avec l'appui sans doute des sociétés françaises, qui auraient fait la différence. Et il semblerait bien, donc, que c'est vrai, pour une fois, on peut quand même aussi reconnaître une certaine qualité quand même à Hollande. Parfois, ça n'est pas simplement un pauvre abruti. Et donc, la France n'a pas elle-même directement, je le pense, peut-être je me trompe, n'a pas directement donné d'argent à ces terroristes.
Bah, si
nous voyons
pas,
bien, nous voyons bien, laissez-moi juste vous expliquer, nous voyons bien que la France, par exemple, on a beau traiter tout ce qu'on veut de Hollande, ben, moi je ne suis pas un Hollandolâtre.
Vous avez le droit, il y a le reste des Hollandais. Mais, hein.
Allez-y, Pierre.
Mais il se trouve que quand on voit l'action en Syrie, la France était par exemple parfaitement prête à soutenir la rébellion. Nous avons bien vu qu'ensuite, on a quand même pris des distances. Nous voyons bien que l'action de la France menée au Mali est bien plus calibrée pour descendre Al-Qaïda que ce que les Américains font de pinaillage et de tractation en sous-main pour casser Al-Qaïda. Et la France, donc, continue son action en ne payant pas directement de rançon.
Mais on est d'accord si on dit la même chose, Pierre. On est d'accord.
Non.
Mais si,
non,
Pierre, on n'a pas payé directement.
Mais on laisse croire. On laisse croire, et ça je ne crois pas que ça soit bon et bénéfique,
excusez-moi, sur un point quand même, mais Pierre, je m'excuse.
Non,
mais
attendez. L'argent du contribuable à ces terroristes.
Mais si c'est l'argent du contribuable, parce que Areva, c'est l'État qui actionnaire à 80%, excusez-moi.
Donc finalement, c'est le Français qui paye.
C'est le Français qui paye. Si c'était Vinci, c'est complètement privé. Je constate que Vinci n'a pas payé, apparemment.
Apparemment, c'est.
J'ai dit apparemment. Je suis très prudent sur ce dossier.